Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani.
Il est 18h, bienvenue au journal de Studio Tamani, les titres. Aucun autre cas de fièvre Ebola n'a été pour le moment détecté au Mali. C'est le constat de l'Organisation mondiale de la santé qui se veut rassurante. Les risques de contamination des personnes ayant approché la fillette décédée sont faibles. Dans le Nord, deux événements distincts ont fait au moins 3 morts dimanche. Il s'agit d'une attaque djihadiste au nord de Gao et de combats entre soldats maliens et rebelles au sud de cette ville. Les bérets verts morts dans la mutinerie du 30 septembre 2013 ont été exécutés. C'est ce que révèlent les tests ADN pratiqués sur les corps. Les tests ont été effectués dans un laboratoire d'analyse aux États-Unis. La justice s'attaque à la corruption. Une rencontre a eu lieu ce matin au CICV sur le rôle et la place de la justice dans la lutte contre cette pratique. Bonsoir. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier qu'aucun autre cas de fièvre Ebola n'avait pour le moment été détecté au Mali après le décès de la fillette. Dans sa dernière communication, l'OMS se veut rassurante. Issa Fakaba Sissoko.
Selon l'organisation, les 108 personnes qui ont été en contact avec une fillette décédée il y a 10 jours restent sous surveillance. Toujours selon elle, les services de santé n'ont pas encore retrouvé les 39 personnes qui ont voyagé dans le même autogare que la victime, arrivée de Guinée 4 jours avant son décès. L'OMS estime que les risques de contamination sont très faibles car il est peu probable que ces personnes aient eu un contact direct avec la fillette. Sa sœur, âgée de 5 ans, était elle aussi fiévreuse, mais les tests ont montré qu'elle souffre de paludisme et non du virus Ebola. Les autres membres de la famille, a précisé le porte-parole de l'OMS, sont hospitalisés et ne présentent aucun symptôme de la fièvre hémorragique.
Depuis le décès de la fillette contaminée, le ministère de la Santé a renforcé les capacités de 92 agents de santé et constitué une équipe d'enterrement pour d'éventuelles victimes de la maladie. Selon les autorités sanitaires, ces mesures visent à améliorer la vigilance dans la prévention de la maladie. Dr Nkoum Kone est directeur national adjoint de la santé. Il est au micro de Issa Fakaba Sissoko.
Depuis le décès de la fille, on n'a pas enregistré de cas confirmés. Le risque est faible, bon, je ne peux pas l'affirmer en tant que tel. Je préfère dire que c'est l'idéal. Mais pour l'instant, on sait quand est-ce que l'épidémie commence, mais il est difficile de se prononcer vers la maîtrise. Évidemment, la sensibilisation se poursuit activement. Bon, tant que l'OMS n'a pas homologué les vaccins, on ne peut pas vous donner une date butoir de la mise sur le marché, encore moins de l'utilisation à grande échelle. C'est un vaccin qui est encore au stade d'essai clinique. Donc, quand les essais cliniques seront bouclés et qui vont prouver que le vaccin est efficace, il protège pendant un bon bout de temps, c'est en ce moment que l'OMS décidera de faire l'homologation, c'est-à-dire la reconnaissance des efficacités et aussi l'autorisation des mises sur le marché. Ces étapes ne sont pas encore franchies. Donc, si c'est décembre, c'est l'idéal. On attend activement et impatiemment donc ce vaccin.
Studio Tamani vous invite à visiter sa page Facebook pour plus d'informations.
Tamani.
Retour sur les accrochages militaires du nord du Mali ce week-end. Au moins 3 personnes ont été tuées dimanche dans 2 événements distincts. Il s'agit d'une attaque djihadiste au nord de Gao et des combats entre soldats maliens et rebelles au sud de cette ville, selon des sources officielles maliennes. Maria Maïga.
Une attaque à l'engin explosif s'est produite à Al-Moustrat à 120 km au nord de Gao selon le gouvernement. La position tenue par les forces armées maliennes a été la cible d'une attaque par engin explosif posée par des individus non encore identifiés. Le bilan est de 2 morts et 4 blessés parmi les militaires. Le gouvernement malien a condamné fermement cet acte terroriste qu'il juge contraire aux engagements pris par les responsables des groupes armés. L'AMINUSMA a dénoncé une attaque lâche et aveugle sur les forces armées maliennes. De son côté, le secrétaire général du ASUIA, Algabas Ag Intala, a affirmé que l'armée malienne a attaqué dimanche la base tenue à Boulkessi par la zone dite du Gourma par son groupe et une branche du mouvement arabe de l'Azawad MAA, faisant 1 mort parmi les combattants rebelles. 20 combattants en tenue djihadiste, selon les autorités militaires maliennes, ont été également arrêtés et des stocks d'armement saisis. Cette même source désigne les groupes armés comme étant les agresseurs. Ces derniers démontent et parlent d'une violation du cessez-le-feu.
La Convention nationale pour une Afrique solidaire dénonce le document de synthèse présenté à Alger lors de la 3e phase des pourparlers. Selon son président, ce document viole la constitution malienne et ne prévoit pas le désarmement des groupes armés qu'il qualifie de terroristes. Soumana Sako, président de Sénas Fassoheré, joint au téléphone par Omar Waigallo.
Le ministre des Affaires étrangères nous dit que dans ce document ne figure pas de mention de fédération d'autonomie, c'est vrai, mais c'est le contenu qui nous intéresse. Et ce document prévoit quelque chose de pire que la fédération. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une confédération, suivant le modèle suisse. Et c'est pas par hasard que les Suisses sont parmi les conseillers du MNLA. Un document qui, en fait, prépare le morcellement, pour ne pas dire l'éclatement du Mali. Et là, il ne faut pas l'accepter. C'est un document qui légitime des groupes armés, alors qu'il faut totalement désarmer tous ces groupes-là, conformément à la résolution 2100. C'est un document qui met en danger la République.
Les tests ADN pratiqués sur les corps des bérets verts révèlent qu'ils ont été exécutés. L'affaire remonte à la mutinerie du 30 septembre 2013 entre les partisans de Sanogo et du colonel Youssouf Traoré. Ce dernier a disparu avec certains de ses soldats. Les tests ont été effectués dans un laboratoire d'analyse aux États-Unis. Maître Mokhtar Mariko, président de l'AMDH, parti civil dans la disparition des militaires, joint par Suleiman Kenza Sidibé.
Quand vous dites affaire Sanogo, il y en a deux. Il y a le dossier que vous appelez communément le dossier des bérets rouges. Il y a aussi le dossier de la mutinerie du 30 septembre 2013 de Kati. S'il s'agit du dossier de la mutinerie de Kati, il y a ce dossier en train d'évoluer parce que les tests ADN sont arrivés dans le dossier. Et nous attendons probablement aussi les dernières observations des avocats pour que ce dossier aussi soit clôturé et être envoyé devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako. Ces tests-là vont vraiment aider les juges dans la recherche de la vérité dans ce dossier. S'il y a des charges suffisantes contre Sanogo et ses complices par rapport à ce second dossier, ils vont être aussi renvoyés devant la Cour d'assises pour être jugés.
La justice se mobilise contre la corruption. Un certain nombre de ses acteurs se sont retrouvés ce matin au CICB. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur le rôle et la place de la justice dans la lutte contre la corruption. Les magistrats estiment que la corruption est un obstacle majeur du développement. Mpere Diarra, membre du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption au micro de Barke Sissi.
Vous savez, la corruption dans nos pays est devenue endémique. Un phénomène inquiétant qui handicape le développement des générations actuelles et futures. Alors, il était bon que la justice, qui normalement doit jouer un rôle prioritaire dans ce combat-là, puisse conscientiser vraiment toute la nation sur le phénomène et marquer vraiment un tournant décisif dans la lutte contre la corruption. La corruption étant qualifiée d'infraction et que la justice est chargée justement de réprimer les infractions, et si elle jouait effectivement son rôle de répression de la corruption, alors il y a fort à parier que ses effets devraient être sérieusement endigués.
2 millions de personnes handicapées se mobilisent pour vivre de leurs activités. Une formation emploi et intégration des personnes en situation de handicap est organisée en ce moment à Bamako. Cette session concerne toutes les organisations des démunis. Les participants sont venus de tout le pays. Adama Diakité, directeur exécutif de l'Association des handicapés du Mali, au micro de Yaborko Nadège Dounion.
La personne handicapée, c'est une personne globale. Donc, on a besoin d'éducation, de formation professionnelle, d'apprentissage. Besoin de mobiliser des ressources, tant financières que matérielles, et même des ressources humaines. Donc, nous tenons à former les leaders de nos organisations de personnes handicapées et sur les techniques de mobilisation des ressources. Et cela va les permettre de se prendre en charge aux activités qu'elles mènent sur le terrain. Un bon plaidoyer efficace leur permettra sûrement d'appliquer ces techniques de recherche et de mobilisation. Donc, les membres s'occupent non seulement de la recherche d'emploi au niveau de la fonction publique, cherche aussi l'emploi au niveau du secteur privé et nous faisons aussi l'apprentissage, la formation professionnelle. Estimation de la Banque mondiale, il y a 15,5% des personnes handicapées au Mali. Donc, nous sommes plus de 2 millions de personnes handicapées au Mali. La fédération compte 17 associations nationales, que nous comptons plus de 1000 membres. Et ça, c'est tout handicap confondu.
Nous allons dans les régions. Plus de 500 personnes ont marché ce matin à Koulikoro pour dire non à la partition du Mali. Organisée par le Conseil régional de la société civile, cette manifestation vise à soutenir le gouvernement malien dans le cadre de la réconciliation nationale et refuser le fédéralisme et toutes les autres formes de la division du Mali proposées par les groupes armés du Nord. Les maires des 12 communes et la préfecture de Djéné préparent depuis ce matin la transhumance des animaux. Il s'agit de trouver un compromis entre éleveurs et agriculteurs sur la date de retour des animaux dans les zones de pâturage. Chaque commune a fait une proposition de date pour la traversée des animaux dans sa localité. Cette anticipation permet d'éviter une transhumance précoce, source de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Un blessé par balle et 10 millions volés, c'est le bilan d'une attaque à main armée à Banamba dimanche dernier. 6 assaillants armés ont braqué un minibus transportant des commerçants qui allaient de Banamba à Nara. Une enquête est en cours pour identifier et arrêter les coupables. À 18h15, je vais céder le studio à Famoussa Sidibé pour le Grand Dialogue. Famoussa, bonsoir.
Bonsoir Salimata.
Et qu'est-ce que vous avez au menu ce soir ?
Aujourd'hui, nous avons la rentrée solennelle 2014-2015 des cours et tribunaux qui s'est tenue hier. Nous allons donc consacrer ce grand dialogue à cette question. Et pour cela, nous aurons Boya Dembélé, secrétaire général du ministère de la Justice, nous l'espérons, et Mpere Diarra, qui est déjà dans ce studio, procureur général par intérim, membre de la commission d'organisation justement de cette rentrée judiciaire. Et nous aurons Maître Brema Koné par téléphone, Salimata.
Merci Famoussa et bon débat.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition présentée par Salimata Dao, mise en onde Gagny Kanté. Merci de votre fidélité.